Donc, bonsoir à tous et bienvenue à la médiathèque pour cette rencontre avec Albert Le Dors. Nous le recevons aujourd'hui. Donc, je présente Albert Le Dors pour les personnes qui ne le connaissent pas. Il est médecin, psychiatre. Il a écrit deux ouvrages. Le premier était intitulé Vagabondage psy. Et nous avions reçu déjà Albert Le Dors en 2007, suite à la parution de cet ouvrage, pour une conférence, comme ce soir, sur les thèmes qu'il affectionne. Donc, il en parlera tout à l'heure. Nous avions déjà reçu Albert Le Dors il y a 2 ans. Alors, nous le recevons à nouveau aujourd'hui pour la parution d'un nouvel ouvrage que je vais vous montrer tout de suite et qui s'intitule « La politisation de l'ordre sexuel ». Voilà. Donc, c'est à cette occasion que nous avons souhaité inviter à nouveau Albert Le Dors à la médiathèque. Alors, pourquoi cette rencontre aujourd'hui ? Eh bien, à l'occasion de cette parution, premièrement, parce que nous l'avions déjà reçu en 2007 et ça avait été, je pense, un franc succès. Je vois que la salle est quasiment pleine, même pleine là ce soir. Donc je pense que nous avons bien fait de réitérer l'expérience. Et puis aussi parce que nous avons remarqué depuis déjà longtemps l'intérêt de nos lecteurs ou usagers de la médiathèque pour ces thèmes autour de tout ce qui est psychologie, psychiatrie, psychanalyse, tout ce qui intéresse le domaine de la pensée. Il y a vraiment un intérêt de toutes les personnes qui fréquentent la médiathèque et autres d'ailleurs, et qui viennent assister à ce type de conférence. Et puis, nous avons aussi souhaité programmer cette conférence parce que nous estimons que la bibliothèque est un lieu d'ouverture culturelle, d'ouverture sur toutes les formes de pensée, tous les modèles de pensée. Et Albert Le Dors en parlera mieux que moi, mais la politisation de l'ordre sexuel, donc son dernier ouvrage, est vraiment axé sur cette idée d'ouverture, de bouleversement de nos certitudes, de nos connaissances, de nos convictions face à des théories qui peuvent éventuellement, mais vous pourrez aussi en parler ce soir, des théories qui nous semblent peu communes, nouvelles, voire même parfois choquantes. Donc Albert Le Dors était donc venu en 2007 ici pour nous parler de vagabondage psy. Et ce soir, donc, il va parler de la politisation de l'ordre sexuel. Alors, pour toutes les personnes qui n'auraient pas lu cet ouvrage encore, je précise que cette fois-ci, Albert Le Dors, a exploré un champ qui est peut-être un peu plus restreint, mais tout à fait passionnant, qui est celui du genre, de l'identité sexuelle, des sexualités, voire des nouvelles sexualités, si on peut les appeler ainsi, et en particulier de la théorie queer. Donc là, je ne vais pas trop m'avancer puisque je pense que vous en parlerez beaucoup plus longuement que moi et beaucoup plus précisément que moi par la suite. L'adjectif queer désigné en anglais, tout ce qui est tordu, un petit peu étrange, bizarre, avec une acception très négative, péjorative, et ça a été appliqué en particulier aux homosexuels par les homophobes. Voilà. Donc, dans la politisation de l'ordre sexuel, M. Albert Le Dors donc, développe cette théorie et la confronte à différents modèles de pensée. Il convoque de grands penseurs comme Michel Foucault, Mélanie Klein, Judith Butler, Sylvia Nagasinski et bien d'autres. Hein, je ne vais pas tous les citer parce que les références sont très nombreuses sur cette question de la sexualité qui est envisagée comme un facteur possible de bouleversement, comme je disais, de nos normes sociales, de nos normes politiques, hein, dans le sens très large du terme, de nos normes qui seraient hétérocentrées, voire même peut-être encore à l'heure actuelle sexistes, paternalistes. Voilà. Donc il aborde cette problématique peut-être un peu provocante, hein, du moins annoncée comme telle dans l'introduction, avec une grande liberté, un très grand choix de référence, et avec une méthode qui consiste à être très libre sur ce choix de référence et sur tous les modes de pensée envisagés. Donc pour commencer cette conférence, je vais laisser la parole dans un instant à Albert Le Dors. Je vous propose la lecture d'une citation qui se trouve au début de la politisation de l'ordre sexuel, qui est une citation de Jean Starobinski. Voilà, que moi je ne connais pas, j'avoue, mon inculture, mais cette citation m'a semblé très intéressante au regard de l'ensemble de l'ouvrage d'Albert Le Dors, parce que j'ai le sentiment, mais vous pourrez en reparler par la suite, hein, je vous re-questionnerai peut-être à ce propos, elle elle reprend toute la problématique qui sous-tend cet ouvrage, tant dans la méthode que dans le fond. Donc c'est une citation sur la citation, justement. L'ampleur du recours à la citation, chez un auteur qui se déclare lui-même mélancolique, nous invite encore à nous interroger sur le rapport entre la mélancolie et l'insertion perpétuelle d'un discours d'emprunt au sein du discours propre. Si c'est là, d'une part, l'attestation d'un savoir, c'est aussi, d'autre part, un aveu d'insuffisance, pour reprendre encore une fois une expression de Montaigne. Céder si constamment la parole à ceux que l'on tient pour mieux disant pourrait être la conséquence du sentiment d'infériorité, voire de dépersonnalisation dont souffre la conscience mélancolique. Il lui faut des soutiens, des appuis extérieurs, des garants. Elle ne dispose pas de ressources propres en quantité suffisante. Elle se bourre de substances étrangères pour combler son propre vide. Voilà, donc il me semblait que dans cette citation, il y avait un petit peu de malice, mais on pourra en reparler un petit peu plus tard. Alors avant de vous laisser la parole, je précise qu'il y aura une vente des ouvrages de Monsieur Le Dors juste après cette conférence. Donc si vous voulez acquérir les ouvrages, c'est possible. Et je précise également que nous avons édité une petite sélection de choix de livres en rapport avec cette conférence qui est ici. Voilà, que vous pouvez vous procurer donc là juste devant vous, sur la table sur laquelle nous allons procéder à la vente de livres, à l'entrée de la médiathèque également, et qui donc que vous pouvez retirer bien entendu gratuitement. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence. Merci.
Bien, ben, merci d'abord d'avoir si bien lu mon livre. C'est déjà une première chose. La deuxième, que je sois mélancolique, c'est peut-être possible. La troisième, c'est que je vous remercie d'être là, c'est pas si évident. Et la quatrième, c'est que, pour résumer mon livre, je suis bien embêté parce qu'il est tellement riche que je ne sais qu'en dire. Enfin, vous avez abordé quand même différents thèmes. Je ne sais pas par lequel commencer, mais simplement sur le mot queer, par exemple. Alors, vous savez ou vous ne savez pas que le mot queer est effectivement un mot d'argot, qui veut dire sale pédé, tordu, va te faire foutre, des choses de ce genre. Et que le 28 juin 1969, à New York, dans un bistrot qui s'appelle Stonewall, la police voulait intervenir dans ce bistrot pour interdire l'habillement des hommes en filles et des filles en garçons, trouvant que ça troublait l'ordre public. Et l'une des premières fois, les homosexuels se sont révoltés et ont chassé les flics. Et ça a donné, alors au contraire du queer de tordu, la marche de la fierté, qui est célébré tous les ans sous le nom de Gay Pride. Alors ça, c'est un petit point d'histoire. Comment m'est venu à l'esprit un thème aussi tordu ? J'en sais trop rien. Enfin, sinon que c'est probablement pas un livre, sûrement pas un livre de psychanalyse. Alors, certainement pas. C'est plutôt anti-psychanalytique d'une certaine manière. Je dirais qu'au sens large du terme, c'est plutôt un livre politique. Pourquoi politique ? Enfin, pas politicien, enfin, mais politique au sens où ce mouvement de pensée qui a démarré dans la French theory, comme disent les Américains, à partir de Foucault, de Derrida, de Deleuze et Guattari, essentiellement Lyotard un peu moins, cette théorie-là a donné naissance à un mouvement de pensée qui s'est donné comme ligne de mire qu'est-ce qui se passe lorsque on cesse de considérer les normes, qu'elles soient sociales, culturelles ou sexuelles, comme normales. Pourquoi, comment est-ce qu'une société peut fonctionner si, par exemple, on considère qu'il n'y a aucune raison de placer en premier ordre l'ordre hétérosexuel, hétérocentré, paternaliste, blanc, occidental. Que se passe-t-il lorsque l'on cesse de considérer le droit occidental, lorsque, par exemple, on décide que les homosexuels ont autant de droits avec un S que les hétérosexuels? Que se passe-t-il lorsque les homosexuels ne se contentent pas de réclamer une certaine visibilité, mais comme le dit Foucault, à la suite de ses théories, mais il n'y a pas que lui qui le dit, outre la visibilité, la reconnaissance, il réclame une égalité des droits avec les hétérosexuels. Alors, égalité des droits, ça veut dire mariage homosexuel, autorisation de l'homoparentalité. Il n'y a pas un seul auteur de cette lignée de pensée qui soit en dehors de cela. Ça, c'est le primum movens. Alors, il s'interroge non pas donc sur les normes, mais sur ce qui amène une société à fabriquer telle norme. Ils abandonnent, si vous voulez, les normes pour s'interroger sur le processus de normativation qui amène les normes. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils disent, cette lignée de pensée, tout est culturel, tout est social. À la suite de Derrida, ils disent que tout est constructivisme social, y compris ce qui apparemment l'est le moins, par exemple la biologie. Homme, femme, il paraît difficile d'échapper à une biologie, j'allais dire, primaire, qui consiste à dire les hommes sont différents des femmes. Or, pour eux, ils disent non. Ce qui est homme, ce qui est femme, sont purement des effets de construction culturelle, en faisant appel, par exemple, comme le fait Derrida, à ce qu'ils appellent la performativité. Alors c'est quoi? C'est un mot compliqué, mais c'est très simple. Ça consiste, pour un certain nombre de personnes, à proclamer ce qu'ils considèrent comme une vérité, et ensuite à la citer de manière tellement fréquente qu'elle en devient un effet d'opinion vraie. Alors, pour eux, par exemple, pour Judith Butler, la grande prêtresse de la théorie queer, la performativité, c'est de dire « ceci est un homme, ceci est une femme ». Alors, elle va jusqu'à dire que tous les discours, par exemple, sur la parité, qui distinguent homme-femme, pour elle, ses ennemis intimes, ce sont les féministes qui, justement, disent « les hommes sont différents des femmes ». Il existerait une âme féminine, il existerait une pensée féminine, il existerait même une écriture féminine, comme le dit Lucy Rigaray ou Helen Sixous, pour elle, ce sont des réactionnaires. Elle dit « tant que l'on, socialement, tant que l'on tentera de réaliser une parité absolue, on passera à côté du problème. Ce qu'il faut, c'est faire supprimer la distinction entre les hommes et les femmes, le masculin et le féminin. Alors, il s'appuie pour cela sur, là, on va faire un peu de clinique, non pas psy, mais au sens très large du terme, il distingue, par exemple, il se servent de certains auteurs comme Stoller, qui est le grand prêtre américain, du transsexualisme ou des phénomènes d'intersexualité. Alors pourquoi et comment est-ce qu'ils utilisent, j'allais dire, cette clinique médicale pour appuyer leur théorie? Alors ils disent, ils distinguent le sexe et le genre. Le sexe, c'est la référence à l'anatomie, à la physiologie, bref, à la biologie. Le genre, c'est ce qui, culturellement, est acceptable et accepté comme distinction sexuelle. Le genre serait donc uniquement performatif de l'ordre du discours, au contraire de la biologie. Un transsexuel, par exemple, alors, le transsexualisme a existé de tout temps. Il n'y a pas si longtemps que ça, dans les livres de psychiatrie, je me souviens toujours d'une conférence où en face de moi, il y avait une dame d'un certain âge qui était une psychiatre, et qui avait reçu transsexuel, un homme qui lui disait « je veux me transformer en femme ». Alors elle dit « ça c'est quand même bizarre, enfin, un homme qui veut se transformer en femme ». Elle a immédiatement référé à ses livres de psychiatrie, on a dit « transsexualisme, les hommes qui considèrent qu'ils ont une âme de femme et qui en plus veulent se transformer en femme sont des fous. C'est de l'ordre de la psychose, de la folie. Ce n'est pas si vieux que ça. Je suis persuadé que dans beaucoup de livres de psy, il y a encore cette formule de transsexualisme égale psychose. Elle lui avait dit, je lui ai donné 90 gouttes d'allopéridol, c'est-à-dire enfin, d'un neuroleptique. Enfin, bon. C'est un discours qui nous paraît aujourd'hui bien archaïque et obsolète, enfin, mais il n'en demeure pas moins que, d'un point de vue théorique, cela existe encore. Ne pas oublier que l'association psychanalytique américaine considérait l'homosexualité comme étant une maladie mentale jusqu'en 1980. Et que l'association psychologico-psychiatrique a considéré qu'il fallait supprimer l'homosexualité de la perversion, donc dans cette année-là, mais non pas sur des critères scientifiques, car les psys tenaient becs et ongles à cette formule de l'homosexualité comme perversion ou pour psychose, mais par vote. Ce qui vous donne une idée de la scientificité de la chose. Et à partir de 1980, on n'a plus considéré l'homosexualité comme étant une maladie mentale. En revenant donc au transsexualisme, Stoller a considéré que ce qui prédominait, ce qu'il fallait prendre en considération en premier, c'était non pas le sexe anatomique, mais le genre. Or, le genre, d'après lui, c'est donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'environnement culturel, en particulier maternel, qui détermine ce genre. Enfin, vous avez par exemple de nombreuses personnes qui sont garçons, mais habillées en filles par leur mère, avec des petites jupettes, etc. C'est plus joli, enfin bon, bref. Alors, pour Stoller, il considère que ce sont les empreintes les plus primitives de relations entre la mère et l'enfant qui déterminent le genre. Donc, au bout d'un certain temps, ces petits garçons se considèrent comme des filles et à un certain âge veulent transformer leur corps en fille, enfin, mettre donc en accord le sexuel anatomique et le genre psychologique culturel dans lequel ils se reconnaissent. Alors évidemment là il y a eu bagarre énorme, l'ordre moral existant disant un garçon qui se considère comme une fille, c'est de la folie. Une fille qui veut se transformer en garçon, c'est de la folie. Et le mouvement queer, enfin, pour résumer enfin, les choses, enfin, en considérer qu'il y avait là une espèce d'abus de pouvoir médical, un abus de pouvoir social, et ils disent un transsexuel qui veut se transformer, il n'y a aucune raison de lui imposer une morale d'État ou un paternalisme d'État. C'est à chacun de décider de son genre sexuel. Alors évidemment, en France, à l'heure actuelle, il est assez facile de transformer son premier chiffre de sécurité sociale, de le transformer de 1 en 2. Mais l'autorisation sociale de se transformer chirurgicalement, c'est encore beaucoup plus difficile. Alors que dans certains pays, comme la Thaïlande, par exemple, il m'a été donné de voir dans un journal une publicité, enfin un encart dans un journal thaïlandais, au même niveau, à gauche, vous aviez une réclame, si vous voulez, pour une clinique capillaire. Enfin, on vous propose de transformer les chauves en chevelus. Et à droite, mais au même niveau, si vous voulez transformer votre sexe, il n'y a pas de problème, adressez-vous à telle clinique. Enfin, donc, une espèce de banalisation totale de la transformation sexuelle. Le deuxième point clinique qui a servi, j'allais dire, à dissocier le genre culturel de l'anatomie, c'est les phénomènes d'intersexualité. Les phénomènes d'intersexualité, ce sont des enfants qui naissent ni garçon ni fille, ou garçon et fille, les deux en même temps. Et jusqu'ici, il n'y a pas si longtemps que ça, ça se produit encore, il y a discussion pour savoir qui décide du sexe de ces enfants qui sont à la fois garçons et filles et qui ne sont ni l'un ni l'autre. Est-ce que c'est l'anatomie qui prédomine ? Est-ce que c'est le sexe chromosomique décelé qui prédomine ? Bref, et qui décide ? Alors, jusqu'ici, il était de bon ton de choisir soit le sexe masculin, soit le sexe féminin pour l'enfant, et de lui assigner un sexe et de l'élever dans les critères sociaux de ce sexe, quitte quelquefois à l'âge adulte de se retrouver avec des garçons qui voulaient être filles, etc. C'est l'histoire d'Herculine Barbin, si bien décrite par Foucault dans son bouquin. Bon. Cette histoire d'intersexualité, là encore, débouche sur des phénomènes, j'allais dire, de décision sociale, car il y a des associations, surtout américaines, mais en France aussi ça existe, qui disent « ce n'est à personne, surtout pas à l'État, et encore moins aux médecins, de décider quel doit être le sexe à la naissance. Il faut laisser à chacune et à chacun, adulte, le choix de son destin sexuel, soit homme, soit femme, soit les deux. » Parce que, disent-ils, lorsque vous imposez à une petite fille ou à un petit garçon qui est plus ou moins intersexué de n'être que cela, vous faites l'impasse sur les plaisirs sexuels de l'autre sexe qu'éventuellement la personne pourrait acquérir. Enfin, alors, parce que dans ces phénomènes-là, il y a bien entendu une décision, j'allais dire radical, d'égalité entre tous les types de jouissances, les jouissances masculines et les jouissances féminines. Et au-delà de cette histoire de masculin-féminin qui devient donc totalement une histoire culturelle, les queers, enfin ce courant de pensée, disent « mais il en va de même pour les fétichistes, pour les zoophiles, pour tout ce que vous voulez. Enfin, donc, il y a disparition du concept et de la catégorie que jusqu'ici on appelait perversion sexuelle. Dans ce type de pensée, il n'y a plus de perversion sexuelle. Sauf, évidemment, la pédophilie. Je n'ai pas trouvé de texte, si j'en ai trouvé, mais de texte qui allait jusqu'à justifier les pratiques sexuelles pédophiles. D'une manière générale, les discours s'arrêtent à ce niveau-là et il n'y a rien sur ce sujet, on l'évite soigneusement. Alors, cet ensemble de normes à combattre s'étend jusqu'à la psychanalyse, évidemment. Je ne vais pas insister là-dessus, hein, je ne vais pas lancer dans des grands débats techniques sur la psychanalyse, mais pour les queers, la psychanalyse est l'ennemi. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est que la psychanalyse repose sur un concept primordial qui est celui de la différence des sexes. Selon Freud, le destin des hommes et des femmes serait différent. Donc, pour eux, pour les queers, ils rentrent bille en tête dans la psychanalyse qui est pour eux une idéologie réactionnaire. Alors, d'autant plus réactionnaire qu'ils invoquent avec les lacaniens ce qu'on appelle le symbolique, qui pour moi prend la suite de l'idée religieuse de sacré. Lorsque les psychanalystes sont emmerdés, ils disent « oui, mais c'est du symbolique ». Enfin, quand on a balancé ça, c'est comme si on vous avait dit « notre Père qui êtes aux cieux » et on rajouterait ben, « restez-y ». Enfin, tandis que le symbolique, l'usage du terme et du concept symbolique par les psychanalystes, c'est à peu près la même chose. Enfin, Michel Thor, qui est un philosophe, enfin un psychanalyste, dit à chaque fois qu'il y a une conquête sociale dans le domaine des mœurs, vous pouvez être certain que les psychanalystes, pour s'y opposer, vont invoquer le symbolique en disant c'est ainsi que Pierre Legendre, par exemple, dans un livre qui s'appelle, dans une revue qui s'appelle Cité, va jusqu'à dire si on accepte l'homoparentalité, cela équivaut au sac de Rome par les barbares. Enfin, j'ai entendu très souvent dire certains psychanalystes comme Jean-Pierre Winter, par exemple, je suis contre le mariage homosexuel, contre. Alors, moi, j'ai envie de leur dire, mais de quoi se mêle-t-il ? Qu'est-ce que ça peut leur faire ? Est-ce que la science, entre guillemets, psychanalytique, fût-elle, invoque-t-elle une histoire de sacré symbolique, au nom de quoi s'oppose-t-elle à des avancées qui sont purement sociales et qui n'ont rien à voir avec la psychanalyse ? Bon, alors, outre cela, et les queers étendent aussi, alors vous comprenez bien que politiquement, là nous sommes en face de pensées qu'on pourrait rattacher à la lignée libertaire, la lignée anarchiste, enfin, puisque ils sont contre, comme Foucault, comme Derrida, comme Deleuze, comme Guattari, de tout ce qui vient d'en haut, ce qu'il aurait bien entendu reproché. On leur dit, mais vous êtes d'affreux réactionnaires, enfin, etc. Le pouvoir d'État existe, et Foucault dit, mais je m'en fous, dans le fond, ce qu'il faut, c'est que chaque individu ait le droit au bonheur, qu'il construit ce qu'il appelle une esthétique de l'existence, un rapport de soi à soi qui le rend le plus heureux possible. Il dit « le pouvoir, c'est ce qui s'oppose au bonheur des hommes ». Enfin, et lui aussi, il est contre la psychanalyse qui, au nom d'un impératif catégorique moral, limiterait les plaisirs, les jouissances des individus. Nous sommes là dans un domaine où le problème, c'est celui de l'auto-décision humaine, de l'auto-réflexion, bien entendu, de l'auto-décision, de l'auto-technique, enfin, de l'auto-production humaine. Enfin, car les queers, alors, ils vont très loin. Ils disent pourquoi ? Alors, il y a d'autres auteurs, comme Sloterdijk, le Sloterdijk, enfin, l'allemand, qui dit finalement, politiquement, jusqu'ici, les philosophies de l'histoire, les Hegel et compagnie, et Marx et tout, lorsque l'on compte sur les philosophies politiques pour transformer l'humain, on a vu ce qu'on a vu. L'échec est patent, total, dit Sloterdijk dans sa fameuse conférence pour le parc humain, suivant, reprenant là l'expression de Platon. dans cette fameuse conférence, il dit « Vous avez échoué », ça c'était surtout une réponse à Habermas, enfin, qui était le leader de la gauche progressiste, bien-pensante, enfin allemande, Sloterdijk étant issu de l'extrême-gauche. Alors qu'est-ce qu'il disait ? Un truc tout à fait choquant. Il disait « La révolution est finie, on ne peut plus compter sur la révolution. Par contre, il ne faut pas hésiter à transformer l'homme en employant ni plus ni moins la biologie, la technique, la génétique, etc. » Ce qui évoque les particules élémentaires de Michel Houellebecq, où il décrit très bien cette disparition en fait, du continent histoire et de son remplacement par une biologie où nous aurions tous des particules, ce qu'il appelle des particules de Krauss, qui on appuierait sur le bouton et ça nous donnerait des sensations de plaisir. C'est pas si faux que ça, l'heure aujourd'hui avec les technosciences, enfin, etc., les ordinateurs, vous pouvez vous revêtir d'un scaphandre et sur un ordinateur, enfin, vous appuyez sur des boutons et vous faites des tas de choses, enfin, des tas de plaisirs tout à fait solitaires, narcissiques et qui vous débarrassent enfin de la dictature de l'autre. Dieu sait si la conjugalité, l'amour entre les hommes et les femmes, et même entre deux hommes et deux femmes, serait compliqué. Là, ça devient beaucoup plus simple, on se satisfait soi-même. Alors, outre cette décision, j'allais dire, de technicienne, enfin dans le sexuel, ils vont encore beaucoup plus loin. Ils disent, certains auteurs, je pourrais vous citer ça comme Donna Haraway, à promulguer. Avant ça, je voudrais quand même parler d'Aparecido. Alors, elle dit dans le. Ça, c'est anecdotique un peu, mais. Dans le souci de ne plus distinguer les hommes et les femmes pour une égalité totale entre les hommes et les femmes, elle a publié ce qu'elle appelle le manifeste contrasexuel. Alors, le manifeste contrasexuel, c'est un manifeste que l'on signe, homme ou femme, et qui interdit d'employer dans la vie sexuelle ce qui différencie l'homme et la femme. Donc, le pénis, le vagin, je vous laisse imaginer ce qu'il y a de commun entre les hommes et les femmes, et qu'il est loisible d'employer, j'allais dire, dans tous les sens du terme. Enfin, bon. En revenant à la technique, Donna Haraway, par exemple, dans le manifeste Cyborg, elle dit qu'il faut supprimer tout ce qui fait distinction. C'est-à-dire le complexe d'Édipe, homme-femme, masculin, féminin, dedans, dehors, vieux, jeune, enfin, etc. Technique, pas technique, naturel ou pas naturel, parce que, évidemment, pour les penseurs queer, l'ennemi, c'est la nature. Homme, femme, enfin tout ce qui est. Donc il faut entièrement dénaturaliser les choses, les culturaliser pour les rendre possibles. Alors ce manifeste Cyborg dit il faut supprimer tout ce qui est distinction et en particulier aussi il faut ne pas hésiter à supprimer la distinction qui existe entre naturel et artificiel, entre technique et humain. Il faut recouvrer, bien entendu, l'animalité qui existe dans l'humain. Il n'y a aucune raison de supprimer l'animalité. Et vous savez, les humanistes disent, bien sûr, il y a de l'animalité à l'intérieur de l'homme. Mais l'important, c'est d'arracher l'homme a cette animalité. Les queers disent non, il faut au contraire conserver cette animalité, la favoriser et faire en sorte que le commerce avec les autres en tienne compte de cette animalité. Alors, par exemple, les femmes, alors que nous présente comme étant des êtres spirituels, doux, tendres, enfin bref, comme vous êtes, vous vous reconnaissez. Enfin, alors, les auteurs queer disent non, on a le droit d'être une salope, on a le droit d'être une méchante, d'être une dirty, comme ils disent. Les femmes ne sont pas des anges. Alors, cette histoire de dénaturalisation, du droit d'être ce que l'on a envie d'être, finalement, ça revient à ça, s'étend, alors outre au mariage homosexuel dont j'ai parlé, à ce que j'ai intitulé la dénaturalisation aussi de l'amour maternel. Parce qu'évidemment, là, il y a un grand problème, enfin, une grande limite. Les femmes, jusqu'ici, c'est elles qui étaient mères. Enfin, donc, il y avait là, somme toute, il y a là, encore jusqu'à nouvel ordre, une limitation à leur désir. Si les femmes décident de ne plus être mères, l'humanité meurt, puisqu'il n'y a plus de... Alors, et puis en plus, socialement, on oblige les mères à aimer leurs enfants. Une femme qui n'aime pas ses enfants, comment la qualifier ? Sinon de mauvaise mère, enfin, mère perverse, mère, enfin, tous les adjectifs les plus désagréables possibles. Elisabeth Badinter, dans son bouquin justement sur l'amour maternel, dit non, cet amour n'est pas obligatoire. Mais elle a tordu un peu son raisonnement. Mais enfin bon, c'était le premier pas sur la séparation, la différenciation entre ce qu'il en était d'être une femme et ce qu'il en était d'être une mère et de ce qu'elle appelait l'aliénation maternelle pour être femme. Les vraies femmes sont les mères. Alors évidemment, l'avortement, la contraception dont je parle longuement dans mon bouquin, il y a toute une histoire, enfin, je me fais un plaisir de rapporter évidemment les positions de l'Église catholique maintient contre vent et marée que l'acte sexuel est un acte naturel et qu'il n'y a pas à en sortir, c'est à l'intérieur du vase, enfin, que ça doit se passer, du vase féminin, un homme et une femme, et il n'y a pas de mesure contraceptive possible, il faut laisser la nature faire les choses. Enfin, il y a tout un long développement sur... l'emploi du concept de nature par l'Église catholique à partir de Rerum et Donum Vitam qui a été écrit par Ratzinger qui depuis est devenu Benoît XVI et qui n'a pas changé sa position d'un iota enfin en 15 ans sur la défense de la nature, de l'amour naturel et de la naissance naturelle des enfants qui doivent se faire sans référence, sans emploi technique, enfin, etc. Bon. Alors que pour les queers, évidemment, ils vont faire en sorte de séparer cette histoire de maternité, cette histoire de sexualité féminine. Et il y a par exemple une Française, Marcella Yacoub, et qui dit « Pourquoi est-ce qu'on ne construirait pas ce qu'elle appelle un projet de parentalité ?» Elle dit « Peu importe la manière dont naissent les enfants, que ce soit après un rapport sexuel papa-maman, que ce soit par adoption, que ce soit par PMA médicalement assisté, que ce soit, etc., par clonage, qu'importe la méthode par laquelle l'enfant est né, ce qui pour elle est important, c'est le projet parental. C'est-à-dire que deviennent mère et père ce qu'ils décident. Ce qui est là, hein, fait tout à fait conforme à ce programme d'auto-décision, d'auto transformation enfin, de l'humain. Alors, il y a encore un auteur qui va plus loin, c'est Henri Atlan. Henri Atlan dit « Dans 20 ans, biologiquement, là je n'ai pas les connaissances suffisantes pour savoir si cela est vrai ou pas, il sera tout à fait possible de concevoir donc une fécondation in vitro » et une grossesse in vitro. C'est-à-dire que la grossesse se passera dans des tubulures, ça se passera dans des... Bon, peu importe. Mais en dehors du ventre maternel, on appelle ça l'ectogénèse. Alors certaines féministes queer en disent « Ah, enfin !» Nous allons être débarrassés du poids de la maternité, et d'autres, même féministes, disant « mais on ne va quand même pas nous supprimer ce grand plaisir d'être enceinte et de donner naissance à un enfant ». Bon, le débat, enfin, voilà. Alors, que rajouter ? Que toujours dans cette histoire de technique, par exemple, il y a un concept comme celui de Deleuze et Guattari, ils appellent le CSO, le corps sans organes. Alors, on va dire un corps sans organes, ça n'existe pas. Alors ils disent le corps sans organes, c'est un corps fait de multiples organes, mais non centralisé par un organisme. C'est-à-dire, il y aurait des pulsions partielles, comme ça c'est une référence bien entendu à la psychanalyse, et des pulsions partielles qui s'exprimeraient sans référence à un ego, à une centralité. Enfin, le corps sans organes. Alors, ce corps sans organes, ça donne par exemple Sterlak, le performeur Sterlak, qui dit « Il n'y a aucune raison que le corps soit limité à la surface corporelle, mais il peut s'étendre ». Alors, il peut s'étendre de diverses manières. Il n'hésite pas à utiliser des prothèses, les queers disant, on peut très bien concevoir que le corps soit une prothèse vivante. Le manifeste cyborg de Donna Haraway ne dit pas la même chose, ne dit exactement la même chose, pardon. Enfin, c'est-à-dire que l'emploi de la technique à tout craint doit être laissé à la libre disponibilité non pas de chacun et chacune, c'est réactionnaire, mais de tous, pour son propre plaisir. Alors, vous allez dire, mais c'est complètement, enfin, c'est de l'ordre du fantasme, enfin, c'est de l'ordre de la science-fiction, c'est de l'ordre de l'utopie. Enfin, peut-être. Mais il n'en demeure pas moins qu'à mon avis, cette manière de concevoir les choses a des applications sociopolitique, au sens large. Par exemple, en psychiatrie, il est bien évidemment, pour eux, les psychiatres, c'est les psychiatres qui sont des fous. Enfin, pour le mouvement lesbien, gay, transsexuel, intersexuel, les psychiatres, les médecins, n'ont pas à intervenir dans ce domaine. Ce domaine, comme tous les autres domaines, doit être laissé à la liberté de chacune. Enfin, de chacun. J'ai tenté que ces deux mots ont encore un sens. Enfin, doit être laissé à la liberté de chacun. Le seul mouvement qui soit possible, c'est l'antipsychiatrie. C'est-à-dire laisser la folie ne peut être que l'expression d'une aliénation langagière et culturelle, et que c'est sûrement à la famille et à la société qu'il faut s'en prendre, enfin, pour expliquer la folie. Dans le domaine alors, du handicap, pour les queers, la personne handicapée, comme l'homosexuel, comme le transsexuel, n'a pas à être considérée dans sa différence, et la société n'a pas à être charitable avec l'homosexuel ou avec l'handicapé. C'est à la société de s'adapter aux valeurs incarnées par cette personne handicapée. À savoir que ce n'est pas à la société de décider de haut ce qui est bien pour les personnes handicapées, c'est les personnes handicapées qui décident de ce qui lui est bien pour eux. Alors là, je vais employer un mot que je n'ai pas encore employé jusqu'ici, je m'étonne moi-même. C'est le mot « communauté ». Alors, en France, vous savez que nous vivons dans une république laïque, citoyenne. Ça, faut placer citoyen partout. Enfin, alors, le problème, c'est que cette République laïque et citoyenne, oh, ça remonte à la Révolution française, mais bon, je ne vais pas aller jusque-là, ne repose que sur l'idée de citoyen abstrait. D'ailleurs, le citoyen, c'est la sublimation de l'individu. Ce n'est pas l'individu concret dans sa chair et dans ses os. C'est, comme dit Rousseau, le citoyen vertueux. Et la République a le droit d'imposer la vertu publique, d'obliger donc tous les gens à être vertueux. C'est le reproche fondamental que font les queers, les libertaires, à cette manière de penser. Alors, par exemple, la République peut décider que les homosexuels n'ont pas le droit d'adopter un enfant. Les lois républicaines actuelles font que, par exemple, le tri génétique est sérieusement contrôlé, etc. Bref, enfin, que les lois républicaines, qui sont des lois donc faites pour les citoyens et non pas pour les individus concrets, limitent et ne prennent pas en compte l'incarnation de l'individu. Il y a Marie-Hélène Boursier, une espèce de personne, professeur quand même à l'université de Strasbourg, mais de Virago, qui lutte à tout prix contre tout ce qui est distinction sexuelle homme-femme, dit il faut, alors c'est le titre d'un de ses bouquins, il faut niquer la République. Enfin, niquer la République en ce sens qu'il faut niquer toutes ces histoires de citoyenneté qui ne tiennent pas compte de la concrétion, la concrétude des individus. Alors elle va jusqu'à dire, par exemple, à la Bibliothèque de Paris, qui a été instaurée par M. Delannoy, pour une bibliothèque concernant les textes des homosexuels, des transsexuels, des bisexuels, etc., etc. Elle dit, mais Delannoy, c'est un vieux con, c'est un vieux réac, parce qu'il fait ça, il laisse ça à des scientifiques ou à des pseudo-scientifiques, alors que les seules personnes qui seraient capables de tenir comme il faudrait les archives des pervers devraient être des pervers. Enfin, évidemment, vous comprenez bien que là, il y a un assaut contre l'universalité et l'université. Enfin, bon, alors du coup, je ne sais plus où j'en étais avec le truc. Si. Enfin, non, les queers. Ah, je n'ai rien dit de ça, moi. J'ai dit tout à fait le. D'abord, je n'ai pas donné mon opinion personnelle. Et j'ai bien précisé que pour les queers, le concept de perversion avait disparu. J'ai dit exactement le contraire de ce que vous prétendez. Enfin, vous avez mal entendu. Enfin, non, fait que pour eux, le concept de perversion a complètement disparu. Alors, autre champ d'application possible fait de théorie queer, c'est ce que j'ai trouvé par exemple chez Foucault à propos du social. Alors, vous savez que Foucault a écrit sur Pierre Rivière, Gorgé, père et mère, etc. Alors Foucault pose une question dans son célèbre dialogue avec Jean Laplanche, psychanalyste, et avec Robert Badinter, qui est ce qu'il est, tout le monde le connaît, en disant « Au nom de quoi peut-on punir ?» Alors, je vous charge de réfléchir à cette question-là. Alors, évidemment, l'universalisme républicain peut vous amener à dire « Bon, bah, c'est l'Assemblée nationale, etc., qui décide de ce qui est interdit, de ce qui est sacrilège, et de ce qui est autorisé, ce qu'on appelle la représentation nationale. » Ah, imaginez évidemment que pour un auteur comme Foucault, il ne saurait être question de tenir compte de cela. Pour Foucault, l'autorité naît de la propre personne. Il dit « Je refuse de considérer d'être géré par ce qu'il appelle la morale d'État. » Il y oppose l'éthique. Alors, pour lui, l'éthique, c'est ce que philosophiquement, on appelle depuis la nuit des temps, la vie bonne. Il dit « L'éthique, c'est la forme réfléchie de la liberté. » Alors, évidemment, le droit de punir, pour Foucault et ses affidés, ne peut aucunement venir d'en haut, là encore une fois, de l'État. Et il trouve confirmation de ses théories dans les écrits d'un professeur hollandais qui s'appelle Hulsmann, qui dit finalement, mais Sade l'avait aussi plus ou moins écrit dans un... dans « Français, encore un effort, si vous voulez être républicain », il dit « Finalement, il faut faire disparaître le code pénal. » Carrément. C'est-à-dire, il n'y aurait plus de code pénal, enfin, en disant « Vous avez fait ceci, vous avez fait cela. » Alors, on s'interroge, il dit « Mais s'il y a crime, quand même. Enfin, » Alors, Hulsmann va jusqu'à dire « Mais ça sert à rien de mettre les gens en prison. » Enfin, moi, vous allez me dire encore que c'est moi qui, mais non, en fait, je sais. Hein. De mettre les gens en prison ou ceci ou cela. Il parle, lui, de situation crime. En disant, finalement, la seule manière de résoudre le problème, c'est de se mettre autour d'une table et de faire en sorte que la victime soit indemnisée, mais qu'il n'y a pas de raison de pénaliser outre mesure. Alors évidemment, je vous laisse... c'est une formule ultra choquante. Mais Hulsmann est totalement dans la lignée de Michel Foucault. Enfin, alors, autre... là, peut-être en guise de conclusion, mais je suis tombé sur les écrits d'un philosophe pays de l'Est, là-bas, hongrois, qui s'appelle Boris Groys. Alors lui, il va encore plus loin. Il dit, j'ai trouvé ça dans une revue artistique, évidemment, parce que autrement ça paraîtrait un peu choquant, c'est d'ailleurs un philosophe quasi inconnu. Mais il va encore plus loin. Il dit, toute la difficulté, désormais, va résider dans la possibilité ou l'impossibilité de définir ce que l'on appelle « homme », avec un grand H. Comment définir l'homme? Comment en donner une définition qui tienne un peu le coup? Il dit comme ça, bon, homme, femme, tout cela va sans doute disparaître. Peut-être que l'humain futur aura des yeux derrière la tête, des ailes dans le dos, et peut-être même encore pire. Enfin, on peut concevoir ça, c'est un peu de l'humanité fiction. Bon. Il dit, mais à partir de ce moment-là, à qui va-t-on donner le droit de vote? Est-ce qu'on va le donner au grand singe? Comment définir la limite entre ce qui sera humain et pas humain? Et il en donne une conclusion optimiste en disant « L'humanité se débrouillera toujours pour savoir ce qu'il faut faire. » Ça, j'en suis peut-être moins certain, mais il a une conclusion optimiste. Parce que je ne vous ai pas parlé, à travers ce voyage, un peu dans la pensée queer, des artistes, mais il est certain que les artistes ont précédé les philosophes, enfin, que ce soit Cindy Sherman, Orlan, qui veut faire de son corps une œuvre d'art au prix de multiples interventions chirurgicales, si bien qu'on ne sait plus si c'est un homme ou une femme, ou un monstre, enfin, parce que les queers se définissent volontiers à partir de la définition tordue, pédée, etc., comme des monstres. Enfin, et ça leur colle assez bien. Enfin, ils veulent faire peur, enfin, évidemment aux bourgeois, mais ils veulent volontiers être considérés comme monstrueux. Enfin, alors, c'est une philosophie, je ne vais pas citer son nom, mais le premier penseur dont se réclame la philosophie queer, c'est évidemment Nietzsche, enfin, dans son opposition au rationalisme, à Hegel, à Kant, qu'il considère comme un boy scout, fortement opposé évidemment à ça. Pour lui, le surhomme, dans le fond, ce que Nietzsche dit du surhomme, c'est l'idéal libertaire du queer, c'est-à-dire la personne qui déciderait librement de ce qu'il en serait ses plaisirs, la puissance de sa volonté, ses désirs, qui les réaliserait, utilisant pour cela tous les schémas techniques possibles et qui ne reculerait pas devant quoi que ce soit du point de vue du monde. Ouais. Alors, je serais bien embêté pour trouver une conclusion parce que j'ai amené des notes avec moi et je me suis rendu compte que je n'ai rien suivi de ça. Sinon, un mot encore. Dire que le queer, évidemment, enfin, vous avez compris cela, ou bien si je ne l'ai pas compris, c'est que je me suis mal exprimé. Ils sont contre toute identité fixe. Foucault dit, ne me demandez pas ma carte d'identité, c'est une morale policière. Enfin, des identités labile, variable, contingente. Tout, pour eux, est à historiciser. Rien n'est fixe, rien n'est naturel. Tout est à construire, déconstruire, suivant les plaisirs et les possibilités de chacune et de chacun. Cela donne, évidemment, une ouverture à un thème comme celui de la subjectivité. Qu'est-ce que c'est qu'à travers ces pensées d'être sujet humain ? Nous sommes aux antipodes, là, des pensées personnalistes, des pensées chrétiennes qui font de la personne le centre, ce qu'on appelle l'ontologie. L'ontologie du queer, c'est ce que chacun souhaite, non pas dans son âme, puisque évidemment il n'y a pas d'âme, mais suivant ses propres plaisirs. Parce que le mot désir, il n'aime pas trop non plus, parce qu'ils disent qu'il y a une espèce de dictature du désir, le désir étant entendu de telle manière qu'on ne sait pas ce qui fait le désir, c'est le diable par la queue, on sait où ça commence, mais on ne sait pas où ça va, c'est-à-dire que non. Le plaisir, c'est plus sûr que le désir. Foucault dit, le plaisir, c'est un événement qui fait éclater les prétentions du moi, enfin, les prétentions des égaux. Donc, contre toute identité fixe. Contre aussi la distinction habituelle, républicaine, dirais-je, de ce qui est public, de ce qui est privé. Pour cette lignée de pensée, tout ce qui est privé doit pouvoir se dire et s'exprimer publiquement. Certains auteurs, par exemple, alors ne parlons pas là de la sexualité, il n'y a rien pour eux qui, dans le sexuel, ait la dignité du secret. Tout doit pouvoir se dire, s'exprimer, et au besoin, la sexualité publique. Autre terme, et je terminerai par là, que les queers n'aiment pas, c'est le mot de dignité humaine. Ils disent que lorsqu'on entend le recours à ce terme, à ce concept de dignité humaine, c'est toujours pour empêcher les femmes et les hommes d'être heureux. C'est pour les limiter dans leurs désirs. Pour eux, la référence au terme dignité humaine est équivalente à ce que les religions appellent sacré. Donc, là encore, à déconstruire, voire à supprimer ou à abolir, enfin en tout cas à déconstruire. Il y a un autre philosophe du droit qui s'appelle Augien. Alors, il dit des choses extrêmement intéressantes, enfin, pour moi. Et évidemment, pour les queers, hors de question de pénaliser la prostitution. Chacun est libre de se prostituer comme il a envie. Je suis tombé sur des textes de Robin, qui est un pédagogue en 1889, 100 ans après la Révolution française. Il avait ouvert un centre de contraception et de malthusianisme en disant « Les femmes ne seront pleinement heureuses que lorsqu'elles pourront faire des enfants quand elles voudront. Elles ne pourront jouir que lorsqu'elles seront complètement libres. » Et il disait « Je ne vois pas de différence entre la prostitution tarifée et le sort qui est fait à la conjugalité des femmes dans le mariage. » Dans le fond, est-ce qu'il y a une différence entre la prostitution ou ce à quoi on peut assister dans certains grands restaurants parisiens où les oncles, surtout à côté du Sénat, très âgés, sortent leurs nièces et avec des beaux hôtels à côté. Enfin bon, est-ce qu'il y a vraiment une différence? Enfin, bon. Donc pour eux, la prostitution n'a pas à être pénalisée. Chacun est libre de son corps, il en fait ce qu'il veut. Alors, le recours donc à la dignité humaine se fait pour eux, par exemple, sur la prostitution. Alors, Augien dit « Nul n'a à se mêler, surtout pas la morale d'État, surtout pas le paternalisme d'État, c'est à chacun de construire son éthique. La morale d'État n'intervenant au minimum, que lorsque le préjudice, et non pas l'offense, il dit, Augien, l'offense est humaine. Il n'y a pas lieu de pénaliser les offenses. Il faut seulement s'opposer au préjudice lorsque cela concerne donc des personnes ou des biens, qu'il y a destruction, mais tant que ça reste du domaine de l'offense langagière, il n'y a pas lieu de pénaliser. Or, Dieu sait, à l'heure actuelle, vous dites, je ne sais pas quoi, PD, connard, enfin, bon, vous vous retrouvez tout de suite devant les tribunaux. Cette extension illimitée de la morale d'État est une chose que Augien, évidemment, condamne, et il appelle ça pour une éthique minimaliste. Voilà, enfin, il y a plein d'autres choses dans mon livre, il est tellement riche. Enfin, mais pour le moment, je m'arrêterai là et attendre vos questions.
Merci beaucoup. Donc si vous avez des questions, que vous voulez vous exprimer, allez-y.
Oui, bonsoir. Oui, donc j'ai une question à poser en fait concernant l'homosexualité en fait. Alors ma question va peut-être un peu déranger beaucoup de gens, mais c'est surtout pour comprendre en fait des choses que j'ai mis cette réflexion. En fait, j'ai toujours voulu comprendre en fait la naissance et la raison de ce qui faisait que des gens parfois devenaient homosexuels en fait. Je voulais comprendre en fait au départ. Et je me demandais est-ce que c'était pas en relation en fait avec l'éducation reçue. C'est-à-dire, je me suis dit alors que c'est peut-être parce que à force de trop vouloir égaliser les choses, qu'en fait on crée une sorte de confusion des sexes en fait à un enfant et on transmet cette éducation. Et si bien que quand ils grandissent, en fait, l'enfant fait son propre choix du sexe, en fait. Et ce qui fait qu'il change de sexe, et, enfin, qu'il a envie peut-être de devenir autre chose que ce qu'il est. Ce que je dis, c'est pas une vision pour ou contre, peu importe, mais c'est une réflexion que j'ai menée, en fait, et que j'ai voulu comprendre, me donner votre avis.
Mais j'en sais rien pourquoi les gens sont homosexuels. J'en sais rien du tout. Enfin, je constate que certains sont homosexuels et que d'autres ne sont pas, mais j'en sais rien. Il y a grosso modo deux écoles. Alors vous dites que la confusion des genres et des sexes pourrait amener à l'homosexualité. C'est possible. Il y a deux écoles. Il y a l'école culturelle, psychanalytique, qui va vous expliquer à partir de Freud comment on devient homosexuel. Bon. Et chez les Américains, chez les gays américains, dans l'école gay américaine, ils sont plutôt pour une explication biologisante de l'homosexualité en disant on est homosexuel biologiquement et puis il n'y a pas à en revenir. Enfin, ce qui fait par exemple qu'aux États-Unis, souvent les homosexuels se collectivisent en communauté pour réclamer des droits, des droits en tant qu'homosexuel. Alors qu'en France, la communauté homosexuelle en tant que telle est peu entendue, désormais davantage, parce que le PACS a été le premier pas, le deuxième sera le mariage homosexuel, ça viendra bientôt. Enfin, puisque nous sommes quand même l'un des derniers pays de la communauté européenne qui n'en tiennent pas compte, l'homoparentalité passera aussi de la même manière. Alors, pour répondre à votre question, je ne sais pas comment on devient homosexuel. Par contre, suivant la manière dont on considère qu'on devient homosexuel, les positions politiques ne sont pas les mêmes. Si on se considère comme homosexuel dès la naissance, on adhère plus facilement à une communauté homosexuelle. Si on vous dit « je deviens homosexuel culturellement », mais que la communauté culturelle, la communauté sociale condamne l'homosexualité, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Vous savez que par exemple, l'homosexualité, je vous ai parlé des sociétés de psychanalyse, mais il y a des métiers qui interdisent l'homosexualité, l'armée, etc. Enfin, ça pose beaucoup de problèmes. Et maintenant, aux États-Unis, on vous dit, si vous êtes homosexuel, surtout ne le dites pas, ne dites rien, ne vous déclarez pas comme ceci ou cela, ne faites pas allusion ni signer quoi que ce soit de son point de vue de l'identification sexuelle.
Moi, j'ai une question aussi. Donc, bonsoir à tous. Je voudrais rebondir là-dessus, justement. Alors, pour moi, en fait, j'ai peut-être choqué certains, mais vous parliez de morale d'État. Et moi, je crois que vous parliez du mouvement anarchiste et libertaire, et je crois que c'est deux mouvements complètement différents, puisqu'en fait, je pense qu'on traverse actuellement une crise de l'interventionnisme. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que l'État a trop interféré dans les affaires sexuelles, c'est-à-dire a voulu justement égaliser les hommes et les femmes. Et ça depuis la Révolution française. Et en fait, moi, je ne suis pas mélancolique, mais je crois que je suis peut-être un petit peu nostalgique, parce qu'en fait, je crois qu'on a perdu le cadre de valeurs en fait, qu'on avait avant la Révolution. Et donc en fait, l'État pour moi joue en faveur des homosexuels et joue en faveur aussi de la pédophilie en fait, de surcroît. Et je crois que justement, il y a une trop forte intervention de l'État dans les affaires sexuelles qui a fait qu'on a libéré les comportements sexuels, donc on a autorisé l'homosexualité, on a autorisé le féminisme, on a aussi autorisé quelque part, si on va plus loin, la pédophilie. Enfin, moi, c'est en tout cas ce que je pense. Donc, je crois qu'il y a en fait quelque part un trop fort interventionnisme de l'État. mais en fait complètement au contrepoint de ce que vous vous proposiez, c'est-à-dire que moi je pense que l'État justement a favorisé et non ces comportements et ne les a pas assez comment légalisé quelque part. Donc je voudrais que vous puissiez me répondre là-dessus. Je pense aussi que quelque part le communisme stalinien a voulu aussi faire un peu ça, c'est-à-dire casser un peu le cadre de valeurs qu'il y avait dans la société. Et, comment? C'est pas une question en fait, c'est plus un débat et demander ce que Monsieur Ledors en pense. Justement, la question c'est est-ce que l'État n'a pas trop favorisé les rapports qu'ont justement ces comportements sexuels vis-à-vis de la société. Est-ce qu'on n'a pas perdu le cadre de valeur qui était le cadre de valeur qui était avant, c'est-à-dire le rapport justement c'est notre patrimoine quoi le
Ben, je ne sais pas quelle est la question. Je connais la réponse, mais quelle était la question? Oui, mais enfin, y a, dans la famille de Louis II de Bavière, ils étaient tous homosexuels aussi. Enfin, du temps de la royauté, il y avait aussi des homosexuels. Et je doute fort que ce soit la République et Staline qui a installé l'homosexualité dans les comportements humains. Alors ce que vous décrivez comme étant une perversion finalement sociale répandue et ouverte par les voies de la légalité, enfin, qu'on a donné tous les droits aux homosexuels, aux femmes et pourquoi pas aux chiens, évidemment, enfin, j'allais dire, et à mon avis, heureusement. Sûrement pas. Alors, sûrement pas, parce que l'une des points d'attaque de ce type de pensée, c'est justement, comme je l'ai dit, mais peut-être je m'en suis peut-être mal expliqué au départ, c'est d'attaquer tout ce qui est norme, normativation. Alors, vous me dites, moi je vois bien le sens de votre question, c'est de dire, mais alors, politiquement, qu'est-ce qu'on peut faire, puisque s'il n'y a plus de normes décidées par la majorité, que doit-on faire enfin, alors, je laisse de côté cette question, et je répondrai que ce n'est pas le sujet de mon intervention, mais je reconnais bien là qu'il y a un énorme problème, puisqu'il faut bien qu'il y ait un État, il faut bien qu'il y ait des institutions, le mot je ne l'ai pas prononcé, qui fonctionnent. Mais mon sujet n'était pas celui-là, mais je reconnais la validité de la question. Ah ben je crois qu'il faut... Oui, non mais d'accord. Ma position, c'est que je crois que l'égalité républicaine, ou je préfère... démocratique, enfin républicain, enfin, je préfère le mot démocrate, j'ai mis beaucoup de temps à y réfléchir, enfin à devenir démocrate plutôt que de républicain, j'ai mis beaucoup de temps. Toute ma culture est contre. Mais je pense que c'est un concept plus adapté et qui doit tenir compte de ce qu'on appelle les minorités visibles, des principes de reconnaissance de ces dites minorités, et que les comme dit Foucault, les homosexuels aussi ont à apporter aux autres des valeurs qu'il appelle de gay, G-A-Y-titude. Hein, c'est-à-dire que les minorités doivent aussi ensemencer et enrichir les autres. Enfin, il ne s'agit pas de fabriquer un communautarisme refermé sur lui-même, avec des juxtapositions de ghettos, mais enfin, il y a des formules à inventer, je ne sais pas lesquelles, mais la question que vous posez, c'est une question politique actuelle. Ça m'est complètement égal. Complètement.
Oui, je commencerai par dire, non pas pour parler moi, mais j'ai lu pratiquement tous les auteurs que tu as cités. Si je dis ça, c'est parce que je pars de ce que j'ai lu d'eux. Or, quand tu termines en disant « ils sont contre toute identité fixe », je crois que là derrière, il y a quelque chose que j'ai lu sans arrêt chez eux. Moi, j'en suis persuadé. Ils en ont une énorme et ils ne se rendent pas compte. Ils ont cette identité d'être contre toute normalité. Chez Michel Foucault, ça y était aussi. Et ça, c'est le summum de la subtilité de ces phénomènes-là. Je me demande ce qui se passerait si nous étions d'accord avec eux. Je crois qu'ils iraient extrêmement mal.
Je ne pense pas qu'on puisse poser la question en ces termes-là. Je ne pense pas. Parce que Foucault dit, par exemple, on comprend mal souvent Foucault. Foucault n'est pas un penseur théoricien de la connaissance. Il dit une pensée, une théorie ne peut être valable que si elle transforme en même temps la personne qui réfléchit. Il dit par exemple, ce n'est pas la même chose de disserter sur l'idée de mort que de se représenter et que d'agir sa propre mort. On peut disserter sur tout, on peut ce qu'il appelle la rhétorique. Mais il est fondamentalement pour une pensée qui transforme son modèle. C'est ce que Hadot décrit comme étant le lien entre le maître et l'élève. Le maître enseigne ce qu'il sait à l'élève, mais à une condition, c'est que l'élève réussisse aussi à transformer le maître. Il y a là toujours une notion de praxis, d'action chez Foucault qui le sépare considérablement de toutes les philosophies pures. Alors, quant à l'histoire d'identité fixe, bien entendu, ce ne sont pas des atomes qui vivent comme ça les uns détachés des autres. Ils ont aussi une espèce d'unité, de chimère peut-être. Mais Musil, dans L'homme sans qualité, dit que finalement, ce qui a entraîné un peu le fascisme et le nazisme auquel il a eu affaire, c'est ce qu'il appelle la chimère, c'est-à-dire les hommes qui se prennent, qui se considèrent comme tellement importants et qu'il se considère comme unifié, ce qu'il appelle la chimère. Et il dit ce qu'il faut pour un homme, une éthique minimale, c'est ce qu'il appelle l'ironie et l'essayisme. Pas l'échangisme, hein, l'essayisme. C'est-à-dire que l'essayisme, c'est réussir à être plusieurs. Rimbaud disait « je est un autre », c'est une formule poétique, mais c'est une formule qui peut aussi s'appliquer à la politique. À la politique, se définir comme étant uniquement « je suis ceci », ça donne une identité fixe qui probablement peut être dangereuse.
Attention, le « je » est un autre, je peux l'entendre aussi comme « il n'existe un « je » que quand il y a un « tu ».
Oui, il faudrait en débattre. Allez-y, madame.
Bonsoir. N'y a-t-il pas une contradiction chez les queers entre le fait de retourner à une sorte d'animalité, de ne pas refuser l'animal qui est en nous, et de vouloir en même temps tout dénaturaliser? Voilà. Et dans le prolongement, est-ce qu'en fait, ce n'est pas une volonté de contrôle de ce qui nous échapperait et de ce qui nous échapperait à nous-mêmes?
Ça, effectivement, c'est une question importante, mais je ne pense pas qu'il y ait de contradiction. Alors, la dénaturalisation, ça veut dire qu'il n'y a rien qui, a priori, soit donné. A priori, qui soit donné et qui soit fixé, identifié comme tel. L'animalité, à l'intérieur de l'humain, n'est qu'un seul élément, mais c'en est un, qui est à articuler avec les autres, comme il faut le culturaliser, son animalité, si vous voulez, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Il ne s'agit pas de la récuser, de la dénier, de la folklore. Enfin, il ne s'agit pas de ça. Alors, quant à l'histoire du contrôle, on peut considérer effectivement qu'il y aurait là une volonté de contrôle, mais je ne pense pas que ce soit le premier problème, enfin le primum movens de l'histoire. C'est, encore une fois, c'est chaque homme doit pouvoir se donner les moyens d'être heureux. Ce n'est pas une histoire seulement de contrôle. Par contre, il peut utiliser librement tous les moyens qui lui semblera disposés, proposés par le monde pour lui-même. Enfin, Sloterdijk dit par exemple, les hommes déposent un inconscient dans la technique et ils ne voient pas pourquoi on récuserait l'emploi de la technique contrairement. Mais attention, enfin, moi je vous ai fait aussi, je vous ai brassé un truc queer, ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Enfin, il y a des distinctions, des subtilités, des différenciations, des à côté, des repentirs, enfin, tout cela existe dans la pensée queer. Enfin, en particulier sur cette histoire de référence à la technique et de dénaturalisation absolue. Vous avez une différence, par exemple, entre Judith Butler, qui s'en tient au langage, à la performativité, à l'itérativité, selon comme le dit Derrida, c'est-à-dire en disant tout est culturel, tout se décide dans le langage, avec une autre personne comme Teresa de Laurentiis ou Donna Haraway qui disent la personne queer utilise la technique et doit se transformer en cyborg, à la limite. Enfin, il y a des distinctions entre les auteurs. Mais bon, le principe de base, c'est quand même permettre à tous d'être heureux selon ses propres voies. Est-ce qu'ils ont des intentions prosélytes? La question est difficile parce que est-ce qu'on peut appeler prosélytisme le fait d'être contre, de manifester, par exemple, de vouloir modifier les lois, comme aux États-Unis, la pénalisation de la sodomie et des choses de cet ordre. Est-ce qu'on peut considérer cela comme du prosélytisme? Est-ce que l'on peut considérer comme du prosélytisme d'être pour le mariage homosexuel, pour l'homoparentalité? Dans cette mesure-là, indiscutablement, oui.
Bon, je ne sais pas trop comment articuler ce que j'ai envie de dire. J'ai bien été attentive à ce que vous avez présenté du mouvement queer, entre autres. Je trouve un peu dommage, je pense que c'est certainement des questions de moyens, et puis l'apparition du livre, qu'il n'y ait pas eu quelqu'un qui soit réellement impliqué en tant que queer, ça aurait peut-être pu donner au débat quelque chose d'un peu plus dynamique. Je pense, en ce qui me concerne, ayant quelques connaissances du mouvement queer, qu'il y a quelque chose qui m'a paru jusqu'à présent plutôt très généreux et très optimiste, et je reparlerai du prosélytisme après, parce que c'est vrai qu'on sait qu'il y a quand même énormément de jeunes et d'adultes après qui sont homosexuels et qui en souffrent, et on a tous, enfin je pense que pas mal d'entre nous connaissent des gens qui du jour au lendemain découvrent qu'ils ont choisi une orientation, qui remettent en question, le vivent pas forcément bien, et moi j'avais l'impression, en lisant un petit peu certaines théories de Judith Butler en particulier, que c'était plutôt une position assez ouverte, qui déculpabilisait un peu les gens, qui avaient peut-être choisi une voie et puis ensuite se sentaient attirés par l'autre, et grâce à la théorie queer, finalement, ne vivaient pas trop mal. Par rapport au prosélytisme, là, je voudrais quand même faire aussi, dire ce à quoi j'ai réfléchi en entendant vos questions, c'est qu'on a un peu l'impression qu'il y a une menace, il y a une menace queer, hein. Et je pense qu'on est dans un monde qui est effectivement très, 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 je veux dire, avec beaucoup de dangers, des dangers surtout totalitaires. Et s'il y a un prosélytisme, pour moi, c'est plutôt le prosélytisme, par exemple, des marques, de la consommation. Hein, et on l'attaque assez peu, ce prosélytisme-là. Et je pense que c'est vraiment, je parle en mon nom, je ne représente aucun courant, aucune personne, et je n'ai pas de livre à vendre. Mais je tiens quand même à dire que, par exemple, je suis aussi en train de lire, grâce à la médiathèque de Lorient, que je remercie pour toutes ces merveilleuses lectures qu'elle offre, c'est Anna Arendt, qui est une philosophe qui a vraiment souligné, vous ne l'avez pas cité, mais elle montre vraiment que l'identité, effectivement, elle peut changer, en particulier dans les mouvements totalitaires. Et est-ce que les Allemands, est-ce que, hors des mouvements stalinistes ou nazis, est-ce qu'il n'y a pas eu des changements d'identité? Est-ce qu'on n'est pas tous menacés parfois de ce genre de changement d'identité? Et est-ce que c'est vraiment du côté des queers qui sont effectivement un petit peu excitants, on a l'impression d'être dans la transgression, qui sont ces gens? Enfin, est-ce que là, on n'est pas un petit peu dans quelque chose d'assez léger et surtout d'un petit peu caricatural? Enfin, voilà, mais je sens que je vais peut-être avoir exaspéré tout le monde, mais écoutez, ça ne m'amuse pas forcément non plus d'intervenir, mais j'avais envie vraiment de le dire. Voilà. Et j'ai même pas trop de questions.
Je c'est pas une question. Enfin, vous dites que la problématique posée par ce mouvement de pensée n'est pas ce qu'il y a de plus urgent dans le monde tel que nous vivons. C'est sans doute peut-être vrai, mais ça n'empêche pas de poser la question. Ah, ouais. Voilà une question qui nous change. Fait d'être asexuel, je vous dirais bien que moi-même j'ai décidé de l'être. Depuis peu. Oui, ça existe surtout aux États-Unis. Aux États-Unis, d'être asexuel. Écoutez, ils dérangeront pas grand monde. Ils dérangeront pas grand monde. Enfin, moi, j'ai rien contre. Hein. Enfin, ils sont asexuels, mais ça existe déjà. Hein. Enfin, les curés, les bonnes sœurs, bon. Ça existe déjà. Mais pas nécessairement les frustrés. Ça peut être aussi des personnes sages qui décident que vraiment le commerce sexuel est un peu trop compliqué et qui restent devant leur ordinateur pour avoir une sexualité narcissique tout à fait satisfaisante. Il n'y a pas à les condamner. C'est-à-dire, précisez votre pensée. Oui, mais enfin, le mouvement queer, c'est pas la liberté des mœurs. Ce n'est pas seulement la liberté des mœurs. Enfin, la liberté des mœurs, c'est va de soi. Enfin, mais dans Rome, me semble-t-il. Oui, mais je ne suis pas sûr que dans Rome, elle existait de cette manière-là. Si on se réfère, par exemple, à ce qu'on écrit Pascal Quignard, c'est pas si évident que ça. Enfin, comme par exemple chez les Grecs, on dit que l'homosexualité est libre, était libre, etc. Rien de plus faux. Enfin, elle était libre entre le maître et l'esclave, entre le maître, etc. Bon, mais ce qui était condamné chez les Grecs, c'était l'homosexualité, c'était la position passive de l'homosexualité. Et la position passive de l'homosexualité adulte était très sévèrement condamnée.
Bien, si vous n'avez pas d'autres questions.
Alors, il y a dans mon bouquin, il y a un bouquin entre Axel Kahn, le généticien humaniste et progressiste, disons au sens large du terme, et un philosophe qui s'appelle Godin. Alors, Axel Kahn repousse d'un revers de main tous ces théories queer en disant que dans le fond, c'est, comme vous disiez, c'est l'écume à la surface de la mer et que cela n'est pas très important. Mais enfin, bon, c'est Axel Kahn. Et Godin lui pose effectivement cette question-là. Ne croyez-vous pas qu'on puisse assister à un effondrement complet de la sexualité? Mais ils n'ont pas apporté de réponse, ni l'un ni l'autre. Pour eux, je ne sais pas trop, enfin pour Godin, oui, c'est du domaine du possible. Oui.
Et moi, je vais vous demander ce que vous pensez des nouvelles solitudes qui, justement, par le livre de Marie-France Irigoyen, parle très bien de l'évolution de la femme et des féministes, justement, qui ont bien fait changer les mentalités et qu'on espère, pour beaucoup, ne pas reculer. Eh bien, que pensez-vous, justement, de cette nouvelle vie, ces nouvelles sexualités, finalement, parce que les femmes se sont rendues compte que vivre sans homme ne changeait pas grand-chose à leur vie de tous les jours. Et elles ont trouvé, bien sûr, d'autres façons de pouvoir s'épanouir.
Oui, et quelle est la question des nouvelles solitudes?
Vous avez lu le livre de Marie-France Irigoyen, qui est psy?
Non, je ne l'ai pas lu, mais... Et là encore, chacun fait comme il peut. Enfin, moi, je vous ai parlé d'un point de vue théorique, je ne vous ai pas parlé des situations pratiques, subjectives que cela pouvait entraîner. Ce n'est pas mon sujet. Alors, mais j'ai absolument rien de...
Une petite question, parce que tout à l'heure, on parlait de la souffrance. Tout à fait. Parce que c'est ça qui crée la personnalité, qu'on l'ait connue enfant ou plus tard. On peut changer en l'espace de 10 ans du tout au tout. Que pensez-vous, en fait? On parle beaucoup de troubles, troubles du comportement alimentaire, phobie, agoraphobie, alcoolisme, troubles des dépenses. Tout ça, c'est de la souffrance. Est-ce que l'homosexualité ne serait pas à la base une souffrance et donc un trouble, sans aller jusqu'à la perversité? Et pourquoi on met ça justement d'une façon normale? Quand on revient à notre époque, on revient sur l'environnement parce qu'on a oublié de s'y préoccuper, on oublie là d'être humain, mais finalement on reviendra en arrière, l'homme à sa place d'homme, la femme à sa place de femme. Eh bien, c'est-à-dire la femme qui a un enfant... Je ne dis pas que revenir totalement en arrière, hein, bien sûr, il ne faut pas reculer, mais revenir en arrière dans le sens, comment dire, un couple homosexuel qui a un enfant, l'enfant va forcément souffrir. Est-ce que c'est vraiment humain? D'accord.
D'être heureux.
Mais oui, mais alors là, je ne l'ai pas dit, mais enfin, je voudrais bien qu'ils me disent ça veut dire quoi? Être heureux, ça veut dire quoi?
Ah, à chacun sa définition. Mais c'est ça le. C'est fondamental comme question. Saint-Just a dit le bonheur est une idée neuve en Europe en 1789 et je vais l'imposer à tout le monde. La mienne, la sienne. Bon. Là, je suis en train de vous répondre. Il faut subjectiver, au sens. Non pas au sens citoyen du terme, cette recherche du bonheur à chacun, hein, enfin, non pas selon ses besoins, mais ce qu'il décide, hein, enfin, comme étant les principes de son bonheur. Je ne vois pas là qu'il y ait de problèmes extraordinaires. Par contre, ce que je récuse, moi, c'est quand on m'impose à moi ma manière d'être heureux. Ça. Alors, pour être queer, soyons vieux. Oui, mais non, franchement, je pense pas. Enfin, si vous avez retenu ça de mon exposé, c'est que je me suis mal exprimé. Enfin, parce que l'histoire de la conscience, bon, ça nous ramènerait beaucoup trop loin, mais enfin, j'en parle dans mon livre. La conscience, ça nous ramène quand même à l'introspection. Et ça nous ramène à des choses qui se sont organisées quelques siècles après Jésus-Christ, où on est passé d'une morale collective à une introspection avec le sens du péché, le sens... Bon. Et je ne dis pas que cela n'a pas été un mouvement, un moment important dans le mouvement de l'émancipation humaine. Enfin, le catholicisme a imposé, contre le droit romain, le consentement, par exemple, des époux dans le mariage. C'est opposé au mariage forcé. Bon, ça, c'est historiquement une formulation exacte. Enfin, mais l'histoire, le concept de conscience, nous ramène quand même, justement, à son origine religieuse. Enfin, plus ou moins religieuse. Enfin, je ne dis pas que le concept de conscience soit à balancer comme l'eau du bain et l'enfant en même temps. Enfin, je ne dis pas ça. Mais, quand même, toute l'histoire des idées humaines depuis 1800 et quelques, hein, nous amène à conceptualiser ce qu'on appelle un inconscient, c'est-à-dire des forces qui nous déterminent malgré nous, malgré notre conscience, que ce soit du point de vue économique, comme le dit Marx, que ce soit du point de vue pulsionnel, enfin, comme le dit Freud, hein, il y a des forces qui nous déterminent de l'extérieur et sur lesquelles nous ne pouvons pas grand-chose. Alors, on peut dire effectivement que la prise de conscience de ces forces qui nous échappent nous permettent d'être plus libres. Mais on peut aussi concevoir, avec Foucault et ses suiveurs, enfin, d'organiser une société de telle manière qu'elle accepte mieux les pulsions humaines. Ah, c'est le propre de la démocratie, mais d'une véritable démocratie. D'accord. Les pédophiles, il faut les castrer. Absolument. Et je les plains plus qu'autre chose. Oui, mais je conçois que ce soit un raisonnement paradoxal. Mais il faut accepter d'organiser la société suivant les pulsions humaines. Ça ne veut pas dire que la société n'a pas à s'organiser. Enfin, alors, vous allez supprimer les pulsions ? Oh, physique. Physique. Oh, ouais. Allons-y, tant qu'on y est.
Ouais, j'ai failli oublier ma question, d'ailleurs. C'était juste pour essayer de... Moi, j'ai pas lu tous ces livres-là, donc je pars de la base un petit peu. Est-ce que la question, c'est pas simplement celle... Enfin, le bénéfice qu'on peut tirer de cette théorie, c'est aussi de réfléchir sur ce qu'on est et sur le droit à exister parmi les autres. Et de réconcilier les différentes personnes qui sont en nous pour être simplement une personne parmi les autres et d'avoir le droit d'exister, voilà, homme ou femme ou, ah ben ou entre les deux. Ou,
tout à fait d'accord avec
et
ce
que
point-là.
Le
mot personne, bon, je ne vais pas vous disputer par rapport à ça, mais le mot personne me dérange un peu, mais tout ce qui existe à l'intérieur d'un sujet humain est tout à fait, fait oui, de ce point de vue-là. Il n'y a rien à en redire.
Très bien, merci beaucoup Albert Ledors, merci.